France Culture. Les pieds sur terre. Sonia Kronlund.
Certains collectionnent des timbres et d'autres cochent des oiseaux. C'est-à-dire qu'ils collectionnent le fait d'avoir vu ce qu'ils appellent des becs rares, souvent des espèces en pleine migration, et ensuite, ils cochent sur leur carnet l'espèce comme repérée. Il y a même un site, cocheur.fr, avec un classement de ceux qui ont coché le plus d'oiseaux, souvent des hommes, il faut bien dire, la première femme arrive à la 35e place. Sur le terrain, en l'occurrence sur l'île d'Ouessant, où nous avons rencontré Lilian, ils sont habillés presque tous pareils, en tenue de camouflage, avec des bottes en plastique aux pieds, leurs jumelles et leur appareil photo à téléobjectif, ainsi que leur vélo tout-terrain. Ils sont tous accrochés à des boucles Telegram qui envoient des points de localisation où ils se précipitent tous en groupe pour voir l'oiseau. Et parfois, ça vire évidemment un peu à la compète. Mais c'est aussi une passion, une obsession poétique et visuelle, à la recherche d'oiseaux immigrés malgré eux, déplacés par les tempêtes, les vents, les erreurs de route. Et c'est précisément cette anomalie géographique qui crée la fièvre, voir un oiseau qui n'aurait jamais dû être là. Alors on a eu envie d'en savoir plus sur ces drôles d'explorateurs ornithologues, à la recherche de la beauté douce et de la rareté, pour mieux caresser le regard du monde, comme le dit si bien Florence de Talouette, qui a rencontré Lilian et qui vous raconte.
Moi, c'est Lilian Ancinas. Je suis un cocheur et un ornithologue passionné. Je m'y suis mis sérieusement en 2018 environ. Et depuis, je fais ça intensément, quoi. Et je coche les oiseaux, mais aussi les insectes, les reptiles, les amphibiens, les mammifères, un petit peu tout. Sur le site Cocheur, parce qu'on a un site du coup où on peut rentrer toutes nos petites coches et tout, mais aussi dans mes livres, ce qui n'est pas cochable sur le site, où je m'intéresse à vraiment plein de choses, les escargots, les araignées, plein de trucs. Il y a vraiment plein de trucs à cocher partout. Toutes mes vacances et tous mes week-ends consistent à observer la nature pour le plaisir, mais la coche, rechercher des espèces que je n'ai jamais vues pour ajouter à ma liste, c'est quelque chose qui fait partie de intégrante de ma vie, quoi. C'est tout ce qui régit mon budget, mes vacances. Même si cette année, j'ai pris plus de temps pour moi, pour la famille, pour les amis, parce que j'avais un peu besoin, justement, de pas non plus perdre le contact avec les humains. C'est toujours hyper important pour moi. La preuve, je suis à Ouessant aujourd'hui. Et par exemple, en janvier, je vais à Oman 2 semaines avec des amis pour voir des nouvelles espèces d'un autre continent, qui ne compteront pas pour la liste France, mais qui compteront pour ma liste mondiale, parce que vraiment, un de mes objectifs de vie, c'est de voir le maximum d'espèces. C'est une forme de collection, mais c'est en fait, on collectionne des souvenirs, quoi. C'est pas tant le chiffre qui m'intéresse. Je veux dire, cette espèce, je l'ai vue, elle est incroyable, elle est trop belle, elle me plaît, parce qu'elle a un comportement particulier, ou parce qu'elle est très jolie, ou parce qu'elle est associée à une histoire particulière, ou parce que le moment où je l'ai vue, j'ai ressenti des émotions particulières. Et c'est ça qui m'intéresse dans la coche, quoi. C'est de voir des nouvelles choses, de voir des belles choses, de passer des bons moments, et de les partager aussi, autant que faire se peut, avec les copains et les copines, quoi. Ah. Salut. Salut Clarisse. La nuit dernière, j'ai fait un rêve. Je trouvais un oiseau très rare. C'était dans la petite parcelle de butternut plantée là dans le champ. Mais je mets le devant les yeux. Et je me dis, oh, c'est pas vrai, un pipite de la Petchora. Et oh, c'est exceptionnel, il était perché sur un butternut. Ce qui est pas du tout crédible d'ailleurs. Mais bon, comme je dis, c'est qu'un rêve. Hein. Et le pipite de la Petchora, c'est un oiseau très très rare, c'est le dernier pipite qui me reste à voir en France. Et c'est un oiseau qui a été vu seulement 3 fois, je crois, en France. La passion pour la nature, je l'ai grâce à ma grand-mère, du coup. Merci, mamie. En fait, elle était mycologue, donc elle s'intéressait aux champignons. Elle était dans un club de mycologie. Et elle allait souvent dans les bois cueillir des champignons. Et elle m'emmenait, quand j'étais jeune, en forêt. Dans sa bibliothèque, elle avait un livre sur la faune-flore d'Europe. Quand j'étais petit, ouais, j'avais 4 ans, je pense. Je savais même pas lire, je regardais les images et je demandais à ma grand-mère de me dire C'est quoi ça? Elle m'apprenait, ça c'est un rouge-gorge, ça c'est un cep de Bordeaux, ça c'est une carpe miroir, elle me disait les espèces de plantes, d'animaux. Et elle m'emmenait en forêt pour voir ces bestioles, quoi. Elle cueillait les champignons et moi je regardais les fourmis, j'écoutais les oiseaux. Ça m'a émerveillé. Et cette passion, elle m'a jamais quitté, quoi. J'observe la nature depuis que j'ai 4 ans, quoi. Aujourd'hui j'en ai 29 et je continue de l'observer quasiment tous les jours. J'ai passé au moins une demi-journée à faire du terrain, enfin à être sur le terrain pour le naturalisme, dans chacun de tous les départements métropolitains. Tous les ans, je vais plusieurs fois en Camargue, plusieurs fois dans le Jura, plusieurs fois dans les Alpes. Je vais aller deux fois en Corse. Je vais souvent dans le Nord-Pas-de-Calais aussi. Et en Bretagne, j'y vais tous les ans. Parce que c'est trop bien. Parce que c'est vraiment trop bien. Mais en fait, tout est exceptionnel, quoi. Même dans son jardin, il n'y a aucun naturaliste qui est capable de citer toutes les espèces de plantes et d'insectes et d'animaux, bref, qu'il y a dans son jardin de 100 mètres carrés, quoi. Mais en fait, il y a de la beauté et des choses impressionnantes à voir partout, vraiment partout. C'est trop bien, c'est vraiment trop bien. C'est le problème quand on a la tête dans les oiseaux, c'est qu'on a la tête ailleurs, donc moi j'oublie tout le temps mes affaires, tout le temps. Je suis très tête en l'air. Je suis pas le seul ornitho à être comme ça d'ailleurs. Les plus acharnés, comme moi quoi, on a l'impression d'être nus sans jumelles quoi. Vraiment, moi ça m'est déjà arrivé plein de fois de d'aller au cinéma par exemple, et j'ai quand même mes jumelles dans la voiture quoi. On sait jamais. J'ai tout le temps mes jumelles avec moi, tout le temps. Depuis que je fais Wesson, depuis 8 ans que je fais Wesson, il n'y a jamais eu de raretés qui ont été trouvées dans les jardins. Mais ça veut rien dire. Donc je vais garder mon appareil photo au cas où. Ça va vraiment très vite. Hein. Autant des fois un oiseau rare, quand il est trouvé, il peut rester des mois et des mois. Autant des fois ça peut durer vraiment une demi-seconde et l'oiseau n'est plus jamais revu. Hein. Donc on va faire un petit formulaire et on va voir. Il n'y a vraiment pas de bruit d'oiseau, c'est fou, c'est triste. Je crois que j'ai bien choisi ma journée pour rester l'après-midi à faire mes mails, etc. et tout, parce que comme il n'y a pas beaucoup d'oiseaux, enfin, il faut quand même toujours espérer, parce que parfois on trouve quand même des oiseaux rares à des moments où il n'y a pas beaucoup d'oiseaux sur l'île. Mais bon, vaut mieux ça que quand il y a une grosse tombée d'oiseaux. Quoi. D'ailleurs, se concentrer au travail quand Wesson arrive et qu'il y a déjà les copains à Wesson, et que nous on est au bureau, faut pas regarder le Telegram ou le WhatsApp, surtout pas, parce que sinon on travaille plus. J'en parlais avec une collègue qui est moins à fond que moi, elle comprenait pas pourquoi j'annulais des week-ends avec les amis pour aller voir un oiseau rare, mais en fait ça nous fait tellement vibrer que c'est impossible de ne pas le faire pour nous, quoi. On y pense tout le temps, et quand on est entre potes le soir par exemple au gîte, on parle tout le temps d'oiseaux, quoi. On parle pas que d'oiseaux, on parle aussi d'autres choses quand même. On n'est pas non plus monomaniaque, mais pas de loin quand même. Pas de loin. Quand on n'est pas devant les oiseaux, quand on est au gîte, on parle oiseaux, quoi, tout le temps. Normalement faire ça parfois, surtout les oiseaux insectivores, ça a tendance à un peu ou les mésanges, ça a tendance à les faire un peu venir. Mais là visiblement c'est un groupe de fauvettes qui sont en déplacement, donc ils s'en fichent. C'était le début du chant du troglodyte mignon, ça. Ah, un chardonneret élégant. Deux chardonnerets élégants. Pareil à l'oreille. Aussi concentré que si je me taisais, mes oreilles elles sont quand même actives et mes yeux aussi. Des fois je suis avec des potes qui sont pas naturalistes, qui sont pas ornitho, et genre on a une conversation, je sais pas, sur la politique ou sur n'importe quoi, et là du coup je fais attends, non c'est bon, c'est rien. Parce que j'ai cru entendre un truc, ils disent mais qu'est-ce qu'il y a, j'ai entendu un oiseau, mais je suis en train de te parler là, oui mais c'est important. C'est important les oiseaux. Enfin bref, ça arrive. Et une fois avec une de mes ex, on avait fait l'amour dans la forêt, et à la fin j'ai noté sur une application où on note les données toutes les oiseaux que j'ai entendus pendant qu'on faisait l'amour. C'est pas que j'étais pas concentré avec elle, hein. C'est juste que nos oreilles, elles sont tout le temps actives, quoi. Elles sont tout le temps actives. Mon oiseau préféré, c'est le tico de Romeschlette. C'est un oiseau qu'on peut voir en France, pas que en France, mais en France, qui vit dans les montagnes, qui vit sur les falaises. Il est spécialisé, il marche le long des falaises, et avec son long bec pointu et un peu courbé, il vient chercher les insectes dans les fissures, dans les trous. C'est un oiseau qui est très joli, qu'on appelle aussi l'oiseau papillon, parce qu'il a les mêmes couleurs que le vulcain, qui est un papillon. Il est noir, rouge, avec des taches blanches et du gris aussi. Et c'est vraiment mon oiseau préféré parce qu'il est unique, parce qu'il est trop beau. Et parce que... Là, on parle de la coche, mais j'aime bien juste observer les oiseaux, quoi. C'est...
Des tarins, désolé.
Alors, j'ai pas besoin des jumelles parce qu'ils ont la même habilité de crier.
Tu reconnais au son ?
Ouais, ouais. Alors, ils passent en vol. Enfin, je l'imite très mal, mais ça fait un espèce de... Enfin bref, je le fais très mal, mais c'est voilà, ça, là, on a d'autres qui arrivent, ça doit être des pipites. Ça, par contre, ça, le vol est un peu différent. Ouais, c'est des pipites. Mais c'est tout le temps les mêmes. Bah, un merle, un rouge-gorge, mes anges bleus, des pouillots véloces. Des oiseaux très communs. C'est pas qu'on s'en fiche, c'est juste qu'on en voit tous les jours. Et du coup, on espère que dans le tas, il y aura un oiseau un peu plus rare, voire très rare. mais ça peut durer des jours, des semaines, des mois, même des années avant de trouver soi-même un oiseau rare. Parce que ce qu'on appelle twitcher, c'est-à-dire se déplacer, aller voir un oiseau rare dont ce n'est pas nous qui l'avons trouvé, bah ça, c'est entre guillemets facile, il faut juste avoir la disponibilité et la motivation. Certains cocheurs jurent que par ça, ils veulent vraiment trouver, parce qu'ils trouvent ça plus gratifiant, plus excitant, plus valorisant, enfin bref, chacun a ses sources de motivation. Moi, j'adore chercher, mais j'adore twitcher aussi. Je sais pas pourquoi, en fait, je trouve que ça me fait vraiment revivre les émotions que j'y vais quand j'étais jeune à tomber sur un Pokémon rare quand je jouais à Pokémon. Genre l'excitation d'être pas sûr de voir l'oiseau, de partir en aventure du jour au lendemain. Ah, là-bas, il y a un faucon cresserelle. C'est pareil, c'est commun. Mais c'est mignon. La sensation de partir à l'aventure. Mais bon, chercher ses propres oiseaux rares. Et moi, j'en ai pas trouvé souvent. J'en ai trouvé quelques-uns dans ma petite carrière. Mais déjà, il faut avoir les connaissances. Il faut avoir aussi la concentration sur le terrain. La détermination, il faut aussi être au bon endroit, quoi. C'est-à-dire que moi, j'habite en Champagne-Ardenne, c'est pas la terre la plus propice aux oiseaux rares. Bon, quand on vient à Ouessant, c'est plus simple, mais j'y viens deux semaines par an, quoi. Bon, on va s'avancer un peu, on va vérifier s'il n'y a que des pipites farlouzes. Moi je trouve ça très mignon, pipite farlouze, mais là pour le coup c'est le pipite le plus commun sur l'île. Et là dans un milieu comme ça, on pourrait espérer un pipite de Richard, un pipite de Godleski. Ça peut être aussi pipite de la Pechora et pipite d'Ado Olive, c'est pas trop le milieu, mais on pourrait en voir sur l'île, qui sont des oiseaux rares aussi, très rares asiatiques. Parfois, ce qu'on tente aussi, c'est au bluff, on met la repasse d'un oiseau rare directement. Par exemple, dans ce genre de milieu, avec des buissons comme ça, pourrait y avoir une fauvette épervière. Et du coup, on peut tenter de mettre directement de la repasse à la fauvette épervière. Soyons honnêtes, hein, ça marche pas souvent parce que la probabilité qu'il y en ait une dans le buisson est très faible. Mais parfois ça marche. Bah, n'importe quel type d'oiseau peut répondre des fois à des alarmes comme ça. Mais s'il y avait une épervière, c'est pas assuré qu'elle réponde, mais ça pourrait la faire réagir. Mais si le pipi de Farlouzen dont je vous parlais a été retrouvé à Porsdoun. Donc c'est le pipi que j'ai déjà vu. J'irai peut-être en fin d'après-midi essayer de faire des photos s'il n'y a pas grand-chose à faire.
France Culture. Les pieds sur terre.
Bon, imaginons un pipi de Farlouzen. Alors, la réaction, c'est déjà de stresser un peu, de sortir mon appareil photo très rapidement. Et après avoir sorti mon appareil photo, essayer de faire le maximum de photos pour ce qu'on appelle documenter l'espèce, pour avoir une preuve de notre découverte. Et surtout aussi pour vérifier, parce que quand on voit l'oiseau, imaginons il s'envole au bout de 20 secondes que je l'observe, la mémoire après elle peut déformer ce qu'on a vu. Donc on revient sur les photos, on vérifie, on demande aux copains, j'envoie un message sur le groupe WhatsApp avec mes potes pour leur dire j'ai un truc bizarre, est-ce que vous avez la même intuition que moi sur cet oiseau, j'envoie les photos. Et de manière collégiale, on se dit ok, on est sûr que c'est ça. Donc on annonce au reste du groupe, sur les groupes WhatsApp où il y a tous les cocheurs de l'île qui sont inscrits. Et là après, tout le monde arrive et on profite de l'oiseau, si l'oiseau est encore là, parce que des fois ça arrive que l'oiseau il se taille. On nous prend pour des fous, nous les chercheurs d'oiseaux rares, c'est parce que beaucoup d'oiseaux très rares même, sont souvent austères, banals, pas très intéressants, pas très jolis, parce que tout marron, ils ont l'air insignifiants quoi, aux yeux des non-initiés. Et en fait, pour nous, c'est le Graal, quoi, parce que ça va être une rousserolle, par exemple, qui vient d'Asie, qui est extrêmement rare, marron, avec aucun caractère particulier, mais qui va nous rendre complètement heureux et fou de joie, parce que voilà, il a quelques critères de différence avec un autre oiseau, un cri un peu différent ou un comportement un peu différent, et juste le fait de savoir que cet oiseau il vient de loin, pour nous c'est exceptionnel quoi. On se dit on vit un moment rare quoi. C'est un oiseau tellement rare que c'en est un gag, une farce, et c'est pour ça qu'on dit un oiseau rare c'est un gag, c'est tellement improbable qu'il soit là. J'ai vu sur Ouessant des oiseaux qui nichent par exemple au nord de la Chine ou en Mongolie quoi, et qui normalement hivernent en Asie du Sud-Est ou en Inde et qui se retrouvent sur une île bretonne. Et c'est insensé, surtout quand on sait que cet oiseau pèse seulement quelques grammes, mais il a traversé l'Atlantique quoi. C'est fou, c'est complètement fou. Moi j'aime bien dire que la beauté est partout pour qui sait regarder, et c'est vrai que voilà, de s'extasier devant un oiseau dont tout le monde se fiche parce qu'il est pas très joli, je trouve ça assez poétique d'une certaine manière. J'ai le souvenir d'être un repas de famille à Noël. J'ai un cousin aussi qui est cocheur aussi comme moi, qui est plus jeune. Et on a l'info sur le groupe Telegram Oiseaux Rares France d'une découverte du pipi de Farlouzen, la sous-espèce Japonicus. Bref, un oiseau extrêmement rare qui est une première mention pour la France et une première mention même pour toute l'Europe de l'Ouest. Et on venait de se poser à table et là je dis à mon cousin « Oh, Tristan, un Japonicus en Camargue, on y va ?» Allez, on a fini de manger et on a pris la route, on a roulé toute la nuit pour arriver le lendemain en Camargue, et alors qu'on était hors pas de famille quoi. Et on se lève de table, on dit désolé la famille, on y va, les oiseaux c'est important. Et notre famille elle est très compréhensive avec nous, donc elle nous dit trop rien. Mais il y a certaines personnes pour qui c'est sujet de discorde, ce genre de choses-là. Il y a des gens que ça a mis le bazar dans leur couple, par exemple, ou dans leur relation avec leurs enfants, ou avec des amis. C'est pas le cas de tout le monde, mais pour les plus acharnés d'entre nous, c'est des choses qui peuvent vraiment nous poser problème. Et moi, ça m'a déjà posé parfois problème, pas trop, parce que j'ai la chance d'avoir un entourage assez tolérant, C'est pas que les oiseaux sont plus importants que les humains, parce que c'est pas vrai. Pour moi, les humains sont plus importants que les oiseaux. Mais c'est juste que un oiseau rare, faut pas le louper, quoi. On n'est pas sûr qu'il sera là le lendemain, on n'est pas sûr qu'il va être revu en France. Le pipi de Farlouzen japonicus, potentiellement, il retombera jamais en France. Tandis que des repas de famille, j'en aurai d'autres. Ça peut paraître égoïste, c'est vrai, mais ma passion, c'est, c'est très important, quoi. Et parfois, bah oui, je sacrifie une soirée avec des potes, ou un concert, ou un festival, ou un repas de famille, ou un week-end avec ma copine, parce qu'il y a un oiseau rare à l'autre bout de la France et que j'ai envie de faire 7 heures de route aller-retour, de payer 200 euros d'essence et de péage, et de rejoindre des potes, et de même pas être sûr de voir l'oiseau, et de revenir potentiellement triste, parce que j'ai pas vu l'oiseau. Mais c'est important, quoi, j'en ai vraiment besoin, quoi. Avez du piaf, il y a R ici, c'est naze. Il y a Mathis qui me répond, on va voir ce qu'ils disent. R-A-S. Ils disent des conneries, bref, voilà, des messages vocaux, je vais pas tout écouter, il faut rester concentré. Et d'ailleurs, j'ai pas noté les données, je vais le faire. Alors, tout le monde le fait pas, mais on a des applications de sciences participatives où on peut noter les observations qu'on fait. Donc, là dans le buisson, là tout à l'heure par exemple, il y avait un groupe de 29 fauvettes à tête noire. Donc on choisit ce qu'on a vu, on a des oiseaux, donc je tape fauvette à tête noire, bon c'est en scientifique mais bref c'est pareil. Et hop, la donnée est rentrée. Alors là comme je suis avec vous, je note pas tout, mais en général ce que je fais, c'est je lance ce qu'on appelle un formulaire sur une zone donnée pendant par exemple 20 minutes. Je note toutes les espèces que je vois avec les effectifs. Et ces données là, elles servent à la connaissance à l'échelle nationale, la répartition des espèces, et aussi l'idée de faire des formulaires, comme je disais, de noter toutes les espèces pendant un temps donné sur une petite zone, ça permet de faire des statistiques aussi d'occurrence d'apparition des différentes espèces au cours du temps. Ça permet vraiment de mieux connaître les oiseaux sur nos territoires. C'est vraiment un de mes meilleurs souvenirs ornitho, et je pense même que c'est, en termes de coche, en tout cas, c'est mon meilleur souvenir en France. Alors déjà, j'étais à Montpellier. J'ai fait la route de Montpellier jusqu'à chez moi en Champagne-Ardenne. J'ai fait presque 9 heures de route. Donc j'étais bien fatigué. J'arrive chez ma copine à Châlons-en-Champagne. Et je reçois l'info qu'il y a un aigle des steppes qui a été vu en France, en Normandie. Je vois ça, je me dis, un aigle des steppes, c'est vraiment un oiseau qui est mythique. D'une première part parce qu'il est très beau, c'est un gros oiseau, impressionnant. Mais aussi parce qu'il est extrêmement rare en France. Il y avait seulement 2 cocheurs inscrits sur le site cocheur qui avaient déjà vu cet oiseau en migration. Et je me dis, je veux absolument voir cet oiseau. Parce que j'adore les aigles. La plupart des ornithos adorent les aigles, de toute façon c'est trop beau les aigles. Mais j'avais fait 9 heures de route et je venais d'arriver chez ma copine. J'avais un pneu un peu à plat. Ma copine m'a dit, bon, je vais te prêter ma voiture. À 2h du matin, je me suis réveillé. J'ai pris la route pour aller en Normandie. J'ai rejoint un pote. Et on s'est dit, on fait la route de nuit. Comme ça, on arrive au petit matin à l'endroit où avait été vu ce fameux aigle qui avait passé la nuit dans un petit bois. Et on arrive au petit matin. Il n'y avait quasiment personne sur site. On était 6. Donc c'est putain, pour un aigle des steppes, pas beaucoup de motivés. Mais c'était un lundi, donc les gens bossaient. Moi, oui, d'ailleurs, j'avais dû envoyer un message à mes collègues pour dire, demain, je vais mettre des récup, je serai pas là, parce que je vais voir un aigle en Normandie. Enfin, bref. Et quand on arrive sur place, effectivement, il n'y avait personne. L'oiseau se montrait pas. Donc, on savait qu'il était dans le bois. On n'avait plus qu'à attendre qu'il s'envole. Donc, comme on était arrivé très tôt le matin, on se disait, il y a le temps. Peut-être qu'il est de l'autre côté du bois, il est en lisière et on peut le voir depuis, posé quoi. Et on s'est dit, nous on va aller voir. Donc mon pote et moi, on prend la voiture qu'elle m'avait prêtée, mon ex. On fait le tour du bois et pendant qu'on part, on reçoit un appel des copains. Allô ?
Oui, l'aigle vient de partir, il s'est envolé, il repart vers le nord, il repart en migration.
Il y avait des voitures derrière, je me suis complètement arrêté. J'ai pris mes jumelles, j'ai regardé dans le ciel, je cherche partout. On le trouve pas. Complètement paniqué. Il était toujours au téléphone, mon pote, et il me dit « Ah, file à ce spot, il m'envoie un point GPS, file à ce spot, t'as une vue dégagée, peut-être que tu vas le retoper en migre. » On remonte dans la voiture, on fait la route, on arrive là-bas, on sort les longues vues, on scrute le moindre oiseau qu'on voit en vol, tout ce qui est à peu près gros et qui vole dans le ciel, qui pourrait potentiellement être un aigle, on le scrute et on voit pas l'oiseau.
On est paniqué avec mon pote. Et là, je suis en train de me dire, ça y est,
j'ai loupé la chance de ma vie, tout ça, parce que je voulais vérifier si l'oiseau était derrière le bois, quoi. J'aurais dû attendre. Je commence à avoir presque les larmes aux yeux, parce qu'en plus, j'avais quasiment pas dormi. J'étais fatigué. Et je me dis, j'ai loupé la chance de ma vie, quoi. Et je commence un peu à désespérer. Tous les autres cherchent, on se sépare un peu. Et Laurence Panut, qui est un cocheur très connu, qui est le premier d'ailleurs sur la liste des cocheurs, c'est lui qui a le plus de coches en France métropolitaine, il m'appelle et il me dit « Allô ? Oui, bon, je l'ai !» Et le réseau était mauvais. Et je me dis « Mais où ? » Et il arrivait pas à m'entendre, ça a raccroché, j'ai dû me déplacer pour le rappeler dans un endroit où ça captait. Donc j'étais vraiment, mais je bouillonnais, j'en pouvais plus là. Il l'a retrouvé, j'appelle mon pote, je dis « Il l'a retrouvé, fais chauffer la bagnole, j'attends d'avoir le point GPS. » Et il m'envoie le point GPS. On arrive près d'un hameau, je prends un sens interdit. J'avais pas vu que c'était un sens interdit, je me dis « Tant pis, c'est pas grave, je le prends quand même, c'est pas grave, tant pis, je prendrai l'amende. » Et on arrive une fois qu'on arrive sur place, l'aigle était posé sur le piquet, et là je me dis, c'est pas possible, je le vois, je le mets aux jumelles et je me mets à genoux et je me mets à pleurer, quoi. J'ai vraiment pleuré. Et en plus, après, on l'a bien vu, il s'est envolé, il a tourné, il a pris de l'altitude, il est passé même proche de nous, à moins de 20 mètres de nous, et c'était dingue, quoi. C'est un oiseau qui est génial, trop beau, si ça serait à refaire, je le referais. C'était vraiment exceptionnel, c'était vraiment complètement dingue. Le fait que les oiseaux volent, je pense que ça réveille un truc. En fait, c'est un peu le rêve de l'humanité de voler. Et rien que ça, déjà, c'est fascinant. Et la diversité des couleurs, des formes, des chants. Et le fait que les oiseaux peuvent se déplacer sur des très très grandes distances. Et que du coup, certains migrateurs peuvent venir de très loin, se perdre et arriver dans un endroit où c'est complètement improbable de le voir. Bah, ça rajoute ce côté un peu... ce que je te disais, le Pokémon rare qui apparaît comme par magie. On a vraiment l'impression que tout est possible avec les oiseaux.
C'était Lilian et les oiseaux, un reportage de Florence de Talouette réalisé par Perret Legras et mixé par Olivier Arnay. Merci bien sûr à Lilian et à Antoine Rougeron, ainsi qu'à l'équipe de Cocheur.fr. L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy, évidemment, et notre stagiaire, c'est Mina Morel. Je signale aux passionnés d'ornithologie, de chants d'oiseaux et d'Élise Andrieux deux autres émissions sur ce thème dans Les Pieds sur Terre dont nous mettrons les liens sur le site. Ça s'appelle Parmi les oiseaux et Deux vies parmi les oiseaux et c'est génial.